Les leçons d'une pièce de monnaie. Sur ma table était préparée la somme nécessaire au paiement de mes impôts. Un denier, je vous assure, et qu'il m'était pénible de voir partir ainsi, sans profit apparent. J'étais donc dans une disposition d'esprit assez maussade, lorsque, machinalement, je pris une des pièces de 5 francs qui formaient la pile et la laissai tomber de haut pour en entendre le son. Le brave et loyal écu tinta comme il devait, mais dans les vibrations qui se prolongeaient, je crus entendre ces paroles « Rendez à César ce qui appartient à César. »« César ?» m'écriai-je, comme si la pièce eût vraiment parlé. « Comment oses-tu prononcer ce nom-là, toi qui n'es qu'à l'effigie de ce bon Louis-Philippe? Et d'ailleurs, ne sais-tu pas que César est mort et que nous sommes en République ?» « C'est bien, » répondit l'écu. « Jette-moi donc par la fenêtre. Hein? Tu ne te presses pas. C'est qu'apparemment, à tes yeux, j'ai la même valeur que si Louis-Philippe était vivant. Vois-tu, les effigies changent, mais derrière elles, il y a quelqu'un qui ne change pas. Tête de Napoléon, de Louis ou de femme couronnée d'épis, peu importe. César ne meurt jamais. « Mais qui donc est César ? » demandai-je. « C'est toi. » C'est ton voisin, c'est ton cordonnier, c'est ton cocher de fiacre. César, c'est la patrie à qui tu dois toujours obéissance, sous quelque image qu'elle se montre à toi. Mais que dis-je? Voici que la patrie s'élargit aujourd'hui. Regarde les autres pièces qui composent ta pile. Je les examinai et je vis en effet des monnaies à l'effigie du roi d'Italie, d'autres à celle du roi Léopold, l'Helvétie était là, et la Grèce et l'Espagne. « Tu vois bien, » me dit l'écu Louis-Philippe, « chacun porte maintenant les États-Unis d'Europe dans son gousset. Bientôt, vous verrez circuler chez vous les monnaies encore inconnues de l'Asie, bientôt les vôtres iront au cœur de l'Afrique acheter l'ivoire et le caoutchouc, et peu à peu l'or et l'argent monnayés n'auront qu'un poids et qu'un titre dans tous les pays du monde, et alors, sous des effigies diverses, il n'y aura plus qu'un César. Qui sera ? L'humanité. » Je restai rêveur à ce dernier mot. Oui, me dis-je, il a raison. César, c'est tout le monde. Cet écu n'est pas à moi seulement, puisqu'il ne porte ni mon nom ni mon image, et que, si j'avais la folie de les y graver, je n'en saurais plus que faire. Il a fallu, pour que cet argent vînt en ma possession, que d'autres m'aidassent à le gagner. Depuis la mère qui m'a mis au monde, jusqu'au patron chez lequel j'ai fait mon apprentissage, chacun est pour quelque chose dans ma fortune, et chacun y a quelque droit. Si je l'enfouissais, je serais donc un voleur. Et il y a bien des manières de l'enfouir. Tout luxe inutile, toute prodigalité, tout ce qui immobilise l'argent et le rend impropre, est aussi coupable que la sordide avarice d'Harpagon creusant un trou dans son jardin pour y cacher sa cassette. Rendez à César ce qui est à César. Que de choses dans cette parole, et quel économiste que Jésus-Christ! Mais cette pièce n'est pas la seule chose au monde que j'appelle mienne et qui ne porte pas mon nom. Hélas, rien de ce que je possède n'est à mon effigie. Ma maison fut construite par d'autres, j'y retrouve leurs traces, d'autres y trouveront la mienne. Je l'habite en usufruitier. Ma terre non plus n'est pas à moi. La terre, source de toutes les richesses et de tous les biens du monde, celui qu'on peut le moins accaparer, et c'est elle qui nous accapare le plus puisqu'elle finit par nous engloutir. Tous ceux qui la cultivent n'en sont que les fermiers. Le vrai propriétaire, c'est l'humanité. Si un jour pris de folie ou de paresse invincible, tous les laboureurs s'unissaient dans une grève gigantesque et laissaient leurs terres en friche, l'humanité, affamée, se lèverait bientôt en leur criant « Donnez-moi du pain ou rendez-moi mes champs !» Toutes les révolutions ne sont venues que de cette tendance désastreuse à l'égoïsme, ce désir d'arrêter la circulation des richesses à son profit, cette erreur de se croire seul propriétaire quand on n'est que les comptables ou les fermiers d'un maître anonyme. Longtemps inconsciente de son mal, la société en souffre en silence. Mais enfin elle s'agite, elle s'inquiète, elle veut rétablir la circulation du sang, et les coupables sont les pauvres, aussi bien que les riches, tous sont avides car tous sont égoïstes. Quand le principe de la propriété individuelle et celui de la fraternité humaine seront également respectés et pratiqués, les hommes auront trouvé la formule de la vraie République. Seulement, il est à craindre que ce jour ne luise pas de sitôt. Et ce jour-là, nous verrons une nouvelle effigie sur nos monnaies, si tant est que nous en ayons encore, celle de Jésus-Christ, roi du monde. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'avons-nous donc à lui rendre qui lui appartienne en même temps qu'à nous, comme un denier est à la fois ma propriété et celle de César? Qu'est-ce qui sur la terre porte l'effigie de Dieu? Nous-mêmes. Mon argent est à moi, mais il est à un plus grand que moi, César. Ainsi, ma vie est à moi, mais elle est à un plus grand que moi, Dieu. Et de même qu'il n'y a pas de contradiction entre le principe de la propriété individuelle et celui de la solidarité humaine, il n'y a pas de contradiction non plus entre la liberté de l'homme qui le rend son propre maître et la souveraineté de Dieu qui lui donne Dieu pour Seigneur. L'essentiel pour savoir à qui une chose appartient, c'est Jésus-Christ qui nous l'apprend, c'est de regarder l'effigie. Dieu nous a donné la sienne deux fois. La première quand il nous créa. L'homme sortit alors pur et brillant de ses mains comme une pièce d'or de celle du fondeur. Mais l'image était extérieure, elle avait été frappée à froid. Elle s'usa bientôt, et c'est à peine s'il en reste aujourd'hui quelques traces. La seconde fois, ce fut au calvaire. Là, l'homme fut mis dans la fournaise. L'image divine fut imprimée à chaud sur son cœur amolli. Elle est devenue une partie de lui-même, et désormais, elle est ineffaçable. Plus la chair s'use, plus l'âme chrétienne met au jour l'image de son Sauveur. Fournaise bénie, où chacun doit passer s'il veut être éternellement marqué de l'effigie de Dieu. Mais l'argent ne sert à rien s'il n'est dépensé. Ainsi, toute vie qui ne se dépense pas est inutile. Celui qui veut garder sa vie comme un avare son trésor n'en jouit pas. Il tremble à chaque instant de la perdre et la perd en réalité. L'or et l'argent monnayés roulent sans cesse, se dépensent tous les jours, ne se perdent jamais. Ils ont toujours même titre et même valeur. Aux mains les plus viles ou les plus nobles, ils restent ce qu'ils sont. Il ne salit jamais, quoiqu'il les frôle souvent aux métaux inférieurs. Ainsi, dans ce monde chrétien, le chrétien passe répandant partout la joie, se dépensant et se retrouvant toujours, ne perdant jamais son bon aloi. Il reste partout l'or de Dieu, jeté à pleine main sur la terre pour l'enrichir et la sauver. Enfin, il y a plusieurs manières de dépenser son argent, mais la plus folle est celle-ci. Derrière une grille, percée d'un trou fort étroit qu'on nomme guichet, se tient un homme qu'on ne voit pas bien, avec un gros registre devant lui. Il prend l'argent, le compte, l'inscrit sur son livre et vous donne en échange un morceau de papier. Et vous partez, tout joyeux, la bourse et le cœur plus léger. Ah, cette folie est un acte de sagesse! C'est la meilleure manière de dépenser son argent que celle-là. Le papier est une promesse. Il assure votre avenir. Contre espèce sonnante, vous avez acheté ce qui est invisible pour le moment, mais en quoi vous croyez, la fortune de vos vieux jours. Il est vrai que vous n'avez rien qu'une signature, mais cette signature engage l'honneur d'un banquier en qui vous avez foi. Oui, gens de ce siècle, c'est par la foi que vous vivez, comme nous. En dernier ressort, c'est sur des choses invisibles que repose votre fortune. La promesse, l'honneur d'un homme ou d'une nation. Nous aussi, nous avons engagé notre avenir sur la foi de quelqu'un. Seulement, vos banquiers vous trompent souvent. Le nôtre, jamais. Nous lui avons confié notre vie. Il nous en paie les dividendes dès le jour même du dépôt. Il nous la rend sous cette forme. Et que sera-ce quand nous rentrerons en possession du capital ? C'est ainsi que Jésus a su, dans une seule ligne, établir la plus saisissante des comparaisons entre l'argent, cette chose matérielle par excellence, et l'âme humaine, ce trésor invisible. Auditeurs, creusez encore, creusez pour vous cette profonde parole, nous n'en avons pas épuisé toutes les leçons. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.